Voici À tout Tarn, magazine en partenariat avec le Conseil départemental.
Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ?
Que ça va nous occuper quelques milliards d'années, en pleine incertitude, que ça va être un bordel innommable, qu'on projette sur l'intelligence artificielle tous nos fantasmes, entre ceux qui imaginent un futur extraordinaire où l'homme va devenir un homme-dieu grâce à l'intelligence artificielle, et puis ceux qui cauchemardent et qui imaginent que l'intelligence artificielle va nous zigouiller dès les années 2030-2040, comme Elon Musk les mauvais jours, on va avoir tout l'éventail. Donc, on va être dans un bordel économique, social, politique, intellectuel. On va avoir beaucoup de mal à savoir où on va. On est dans un grand brouillard. Plein de gens auront des certitudes qui se révéleront toutes fausses. Ça va être difficile de trouver un chemin, notamment pour des raisons éducatives. Et c'est ma grande angoisse, c'est que je crains que Harari, dans Homo Deus, ait raison. C'est-à-dire qu'on aille vers des dieux et des inutiles. C'est-à-dire une aristocratie de l'intelligence et puis de l'autre côté des gens pour lesquels le monde va devenir trop compliqué.
Près de 10 ans après avoir vendu le site Doctissimo, Laurent Alexandre, 56 ans, est devenu un vulgarisateur des nouvelles technologies, un gourou qui décrit un avenir pas si lointain où la puissance de l'informatique, mêlée au progrès de la médecine et de l'infiniment petit, les nanotechnologies, rendra l'homme surpuissant, immortel ou esclave de l'intelligence artificielle dont il aura perdu le contrôle. Paul va vous parler de la thématique de l'intelligence artificielle avec ses invités, mais pas autour de la figure de Laurent Alexandre qu'on vient d'entendre, qui lui demande 5 000 € pour intervenir en conférence, mais celle d'Axel Kahn, qui vient sûrement pour un peu moins.
Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutos et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de Radio Albigès. Aujourd'hui dans votre magazine À tout Tarn, on va parler d'une journée organisée par l'AGET. L'AGET c'est l'association Jaurès Espace Tarn, une journée donc organisée autour de la personnalité d'Axel Kahn. Ça se passera donc le mardi 16 octobre prochain. Ça commencera à 17h à la librairie Clair-Obscur avec une séance de dédicace et de rencontre avec le public. Et ensuite donc toujours le même jour, mardi 16 octobre à 20h30 du côté de la faculté Champollion d'Albi, avec une conférence d'Axel Kahn donc sur l'intelligence artificielle et la place de l'humain dans tout ça. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Jacques Trinck et Michel Dubarry. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Pour commencer, vous êtes les mieux placés pour nous expliquer un petit peu qui est Alex Kahn, de quoi va-t-il être question donc cette journée du 16 octobre.
Donc c'est Axel Kahn, hein, c'est pas Alex, mais bon, peu importe. C'est un médecin généticien qui est quand même assez connu en France et même à l'étranger. Hein. C'est... quelqu'un qui est aussi essayiste, il a écrit quand même pas mal de livres. Il a été directeur de recherche à l'INSERM, qui est l'Institut National de la Recherche Médicale. Il a aussi été directeur de l'Institut Cochin, qui est un grand centre de recherche. Et il est également directeur, donc maintenant honoraire, de l'Université Paris-Descartes, qui est l'une des plus grosses universités françaises. Voilà, donc il est aussi un peu connu dans le monde, il est docteur honoris causa dans un certain nombre d'universités à l'étranger, en Belgique, au Québec. Je dis Québec parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et où je vais souvent. Il est honoris causa donc à Montréal, à Sherbrooke, à Laval et aussi à la capitale du Canada. Voilà.
Ouais, c'est un sacré CV ça.
Oui, c'est ça. Oui. Il y a pas, on va élaguer parce qu'il y en a d'autres, mais bon.
D'accord. Et donc, ouais. Autour de quoi portent ces travaux et pourquoi, sur quel thème vous avez souhaité le faire parler, vous ?
Alors, c'est à partir donc, d'un article qui est paru dans Marianne, il y a, je crois, c'est à la fin de 2017, où il a écrit, il était interviewé sur l'intelligence artificielle, en fait. Donc, l'article ça s'appelait « Le génie humain survivra à l'intelligence artificielle ». Voilà. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait exact parce que l'intelligence, elle est pas artificielle, l'intelligence est humaine. Donc même si,
les humains qui ont créé les robots.
Voilà, les robots ont été créés par les humains, donc par l'intelligence humaine. Alors après, c'est un autre sujet de savoir si les robots remplaceront les humains, ça c'est un autre problème. Donc moi j'avais été donc très favorablement surpris par la clarté de son article, hein, donc je l'ai contacté. Il était donc déjà venu à Albi le 10 mars 2015. Hein. C'était sur nos sujets. Hein. En fait, Axeklan avait traversé la France du nord au sud et de l'ouest à l'est. Donc ça, c'était dans les années 2013-2014. Hein. Mm-hmm. Donc, et il était venu un petit peu restituer ce qu'il avait donc ressenti au cours de son périple, de ses traversées. Cette conférence débat donc a eu lieu à Albi au même amphithéâtre que celle qui va avoir lieu le 16 octobre. Ça avait été aussi un moment assez fort parce que c'était un partenariat aussi avec la Fédération française de randonnée pédestre, qui avait donc il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient de la rando. Parce que Axeklan est un grand marcheur, il continue d'ailleurs de marcher.
Donc il avait fait une rando dans toute la France pour dresser voilà. Un état des lieux, mais des lieux de quoi ?
C'est ça, voilà. En fait, c'est un état des lieux de la France, on pourrait dire de la France d'en bas, si on peut dire. Parce qu'il était à chaque étape, il était reçu par donc, un comité d'accueil. Alors ça pouvait être quelques personnes à plusieurs dizaines ou même plusieurs centaines de personnes. Et en fait, c'est des gens qui un peu l'interrogeaient sur son ressenti par rapport à la politique actuelle du gouvernement, les problèmes que les gens rencontraient, la désertification de certains ou la désindustrialisation de certains endroits, comme par exemple dans l'est de la France. Mm-hmm. Donc, et puis il avait fait donc cet état des lieux et sa conclusion, c'était de dire qu'il y avait en France un phénomène de sécession de large part de la population française. D'avec le discours qui était un peu convenu et raisonnable des forces politiques et traditionnelles du gouvernement, et qu'il avait averti les femmes et les hommes politiques français si cette tendance continuait, s'ils étaient incapables de proposer une vision d'un avenir désirable, dans lequel existaient de réelles perspectives de développement de territoires et autres, alors la sécession progresserait et que c'est l'extrême droite qui en profiterait. Donc voilà, donc c'était une réflexion qu'il avait eue, qu'il avait livrée donc au cours aussi de cette conférence débat. Et ça pose aussi la question de savoir, a-t-on avancé, où en est-on ? J'ai pas l'impression personnellement que ça ait beaucoup changé.
Et voilà. Juste, qu'est-ce que vous entendez par sécession ? Parce que peut-être expliciter un peu ce terme.
Ben, sécession, c'est en fait, c'est des gens qui refusent un peu le tous ces discours convenus, tout le fait que, ben, en fait, on a l'impression qu'on envoie les gens dans un entonnoir, que l'ultralibéralisme envoie ces gens-là dans un entonnoir, qu'il y a donc et qu'il y a une espèce de rébellion, de révolte, même si elle apparaît pas de manière ouverte par des manifestations énormes ou des choses comme ça, mais il n'empêche que les gens ressentent. Ils sont il y a une défiance très forte par rapport donc à tout ce qu'on appelle la classe politique. C'est pas une classe politique, mais enfin tous les gens qui sont au pouvoir et qui ne s'intéressent pas donc à cette France d'en bas, quoi. Voilà.
Donc ouais, d'accord. Donc ils ont l'impression d'être pas écoutés, pas entendus, et donc du coup voilà. Ils vont se réfugier vers les extrêmes.
Voilà. Ok. C'est un peu ça.
Vous trouvez que la société actuelle délaisse les valeurs de solidarité ?
Axeklan.
C'est clair, la société actuelle.
Octobre 2015.
Enjoint n'importe qui, avant tout.
Au micro de Presse Océan.
La société actuelle enjoint chacun d'avoir à valoriser ses atouts personnels afin d'accéder à la meilleure situation et au meilleur plaisir possible. On est une société qui, pratiquement dès la jeunesse, enjoint les personnes à l'individualisme et même à un certain égoïsme. Je suis ancien président d'université. Vous savez que dans beaucoup de grandes écoles, aujourd'hui la plupart des grandes écoles, la manière dont on considère le niveau des grandes écoles, ça n'est pas la qualité de la recherche, la qualité de l'engagement, l'importance pour la société de ce que l'on fait. On dit que les meilleures grandes écoles, ce sont celles qui valent les meilleurs salaires aux diplômés à la sortie. La société réelle dans laquelle on est, c'est celle-là. Or moi je dis que la société qui vaut la peine qu'on s'y engage, c'est celle de la solidarité. Et c'est la raison pour laquelle je suis là.
Quel est le lien un petit peu entre ça et le thème sur lequel vous avez souhaité qu'il intervienne, qui est l'intelligence artificielle ? Comment on relie ça avec ses autres travaux et quel est son point de vue par rapport à ça, par rapport à l'intelligence artificielle ?
Alors, Axeklan, c'était plutôt un médecin qui a travaillé beaucoup sur la génétique. Donc, il y a quand même pas mal de liens parce que L'intelligence, comme on disait tout à l'heure, c'est que plus c'est sur les hommes. C'est, on dit par exemple de robots intelligents, mais ces robots ont été créés donc par les hommes. Même si certains robots, dit-on, sont capables de s'autoprogrammer, c'est quand même au départ les hommes qui les ont conçus. Qui ont conçu, on parlera des algorithmes, comment ça fonctionne un robot, comment ça fonctionne des machines. C'est géré par, principalement par des algorithmes. Alors pourquoi ça l'a intéressé, Axel Kahn ? Parce que en définitive, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Il se dit tout et n'importe quoi là-dessus. Et ça suscite quand même un certain nombre d'inquiétudes, parce qu'on se demande si les robots ne vont pas remplacer les hommes, ce qui est déjà le cas dans
certains corps de métier.
Oui, ouais, dans certains depuis corps moment, de métier. Mais... Oui. On parlait tout à l'heure avec votre collègue journaliste des par exemple des traders. Les traders, ça n'existe quasiment plus. Ce sont des machines qui prennent des décisions au millième de seconde. Et qui gère des flux de capitaux énormes à des vitesses qui sont ultra rapides. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que ça. Donc, les caissières du supermarché sont peut-être aussi amenées à disparaître. Donc, ça, c'est. Et puis, petit à petit, donc, ce qu'on appelle le back-office dans les banques, donc les gens qui étaient au guichet et autres, ça n'existe quasiment plus. Mm-hmm. Donc, c'est cet aspect-là qui est quand même inquiétant. Et qui inquiète aussi beaucoup les gens. Hein. D'après une étude du MIT, là, Massachusetts Institute of Technology, cette étude considère qu'en gros, aux États-Unis, dans les prochaines années, en gros, 43% des emplois seront robotisés, informatisés et autres.
Donc, si on est 43%.
43%.
Ah, ouais. Ouais. C'est énorme.
Ce qui correspond pour les États-Unis, en gros, une perte d'emploi de 65 millions d'emplois. Voilà. Donc, ce qui est effectivement énorme. Donc,
et du coup, est-ce qu'il y a des réflexions politiques qui sont engagées à ce niveau-là ? Parce qu'il serait temps peut-être de se saisir de la question.
Il y a des réflexions politiques qui sont engagées, y compris en France, parce que là, je vois que, par exemple, Cédric Villani, qui est un député LREM de l'Essonne, qui devait remettre un rapport sur cette question en mars. Voilà, donc là-dessus, sur quelles seraient comment ça allait se passer en France, quelles seraient les répercussions sur l'emploi. Et qu'est-ce que ça allait induire ? Voilà, donc, alors, je ne connais pas la conclusion de ce rapport. Est-ce qu'il a été présenté ? Voilà.
Bah, Cédric Villani, c'est un mathématicien à la base. Donc, voilà. On espère que son rapport sera,
oui,
c'est ça. Sera clair.
Voilà.
D'accord.
Donc, ce risque est un risque économique qui fait qu'en fait, on est dans un système ultra-libéral. Donc, ce qu'on cherche, c'est quand même d'économiser par tous les moyens, on le voit bien, et de supprimer du personnel. Donc, et ça, c'est la conséquence économique. Et les autres conséquences, c'est aussi c'est les conséquences aussi éthiques, parce que ça peut avoir une certaine utilité, donc l'intelligence artificielle, dans la mesure où, par exemple, on peut peut-être rendre la vue à certains aveugles en implantant
Des puces dans le cerveau.
Voilà, c'est ça.
Oui. Ah oui, pour la médecine, il y a des réels progrès.
Pour la médecine, il peut y avoir de réels progrès. D'ailleurs, Axel Kahn, il en parle je pense qu'il en parlera aussi dans sa conférence débat. Hein. Maintenant, il y a tout ce qui peut être dévié. C'est-à-dire, on sait très bien que, par exemple, quand les amphétamines ou les produits, donc, certains produits dopants étaient dérivés de la médecine. Donc, ça a été ensuite, certains sportifs ou autres, même des sportifs qui ne sont pas des professionnels, mais des amateurs, l'ont utilisé. Donc, on est même certain que ça peut dériver.
Ben c'est sûr.
Et que ça peut aller très loin.
Oui, parce que de toute façon, on part du principe que tout système informatique est piratable ou non sûr à 100%, puisque quand on voit des hackers de 14 ans arrivent à craquer le site de la NASA, donc on se dit qu'une puce dans le cerveau, ça ne doit pas être bien compliqué. Donc ça pose des questions effectivement par rapport à ça. Après, pour revenir peut-être sur la question du remplacement des personnes physiques par des robots ou tout ça, quelque chose qui est déjà en cours, donc comme vous l'avez dit, on voit les caissières au supermarché qui sont remplacées par des caisses automatiques, ou même à la SNCF, les guichets qui sont remplacés par des guichets automatiques. Alors, j'en avais parlé à quelqu'un qui avait un peu réfléchi à la question et qui disait que justement, c'était beaucoup en lien avec le revenu universel. justement parce que ceux qui défendent le revenu universel, beaucoup disent qu'il est nécessaire car ces emplois qui sont détruits par la robotisation ne seront pas remplacés. Et donc il est nécessaire d'avoir un revenu universel pour que les humains puissent continuer à vivre. Et que d'un côté c'est pas plus mal que ces corps de métier là disparaissent, puisque c'est des métiers qui sont fatigants, qui sont pas forcément très, très enrichissants personnellement, mais qu'il faut que ça s'accompagne par un revenu supplémentaire. Et que ce revenu devrait en plus être payé par les entreprises qui font des économies sur des économies d'échelle sur le personnel qui n'engage pas et en achetant des machines à la place.
Oui.
Est-ce que tout ça...
Alors quand on voit que par exemple la communauté européenne est incapable de faire payer aux GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, les impôts qu'ils devraient, moi j'ai des doutes quant au fait que eh bien, on indemnise les gens qui seraient donc privés d'emploi, qui sont au chômage ou autre. En plus, moi, je pense que, en fait, l'homme n'est pas fait pour ne rien faire, quoi. Travailler, ça peut être aussi valorisant, ça peut être aussi une source de satisfaction. Ça dépend de ce que l'on fait, dans quelles conditions on le fait, quel est le salaire qu'on reçoit et autre. Donc, moi, ça m'a jamais... ça m'a jamais déplu de travailler. Bon, certainement c'était difficile, mais quand même c'est assez valorisant aussi. Je crois que rien faire, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont indemniser ces gens et le revenu universel, pour moi c'est pas une solution.
D'accord. Voilà. D'accord. Bon, c'est un autre débat. Il y en a qui se rendent compte que finalement les gens, en fait, l'humain n'est pas programmé pour rien faire, et donc du coup s'il a du temps libre et qu'il a des disponibilités financières, il va s'engager dans l'associatif, créer d'autres choses qui seront bénéfiques à la société, que la plupart du temps ça se passe plutôt comme ça. Enfin bon, ça c'est pour les pays qui l'ont déjà testé, il y a ces échos comme ça.
Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que le contact d'un humain avec les robots, c'est pas ce qui va être le plus enrichissant et épanouissant pour l'humain. Je sais pas si ce sera épanouissant pour les robots, mais enfin le contact humain, moi je préfère une caissière au supermarché que je délaisse les caisses automatiques, étant donné que ça détruit les emplois et qu'on n'y gagne pas au point de vue du rapport humain. Aller poser une question à un robot, c'est très compliqué déjà. Hein. De poser une question par Internet, on veut tout rationaliser et tout numériser. C'est hélas la tendance qui est en train de se dessiner. Et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on revienne à des choses plus terre-à-terre, sans jeu de mots, et suivre Axel Kahn sur d'autres chemins.
Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Day. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave. Although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock.
Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
Dave. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Hal? 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 Hal?
C'était un extrait du film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, où l'ordinateur de bord HAL refuse d'ouvrir la porte à l'astronaute. On retourne avec Paul auprès de l'association Jaurès Espace Tarn pour parler de la conférence d'Axel Kahn.
Donc nous l'avons invité donc, le 16 octobre à 20h30 à l'université pour qu'il nous parle donc, demain des robots intelligents et l'homme dans tout ça. Et je pense que c'est la seconde partie qui sera intéressante. Mais à 17h, il a à la librairie Clair-Obscur rue Sainte-Claire à Albi une rencontre littéraire autour de son dernier ouvrage qui s'appelle « Chemin ». Comme l'a dit Michel tout à l'heure, bon... Axel Kahn est quelqu'un qui aime la marche. Il aime la marche non pas pour faire du sport, certes, il aime ça, mais pour lui, c'est une façon de vivre, c'est une manière d'être. Et pendant qu'il marche, et on le voit très bien à travers ses deux ouvrages, le premier, c'est « Penser sur les chemins de France », c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Michel, la traversée de la France et de la Bretagne jusqu'au pays, de l'Alsace, je veux dire, jusqu'au Pays Basque. Et un deuxième ouvrage où il a fait l'autre diagonale, c'est-à-dire de la Bretagne jusqu'à Nice. Et il n'a cessé, d'une part, au cours de ses pérégrinations, de réfléchir, de penser, et c'est là qu'il a élaboré un certain nombre de ses articles, qu'il a pensé à ses bouquins, mais surtout, il a beaucoup consulté aux étapes qui étaient prévues, les gens du terrain, les gens de la France, et il en a tiré un certain nombre de conclusions sur la façon dont on pouvait, et Michel en a parlé tout à l'heure, dont on pouvait évoluer dans notre développement humain, hein, parce que pour lui, l'humain est essentiel. Et dans ce dernier ouvrage-là, hein, qui s'intitule tout simplement « Chemin », il essaie de faire la synthèse de toutes ces pérégrinations qu'il a faites à pied, hein, car c'est un grand marcheur. J'ai eu l'occasion de marcher avec lui pas longtemps, simplement traverser le hall de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Il a à peu près une enjambée qui doit faire entre 50 et 60 cm, si ce n'est pas 70. Il marche très vite et il aime ça. Et il marche en ville, il marche à la campagne, il marche dans la montagne. Et il a son esprit qui toujours est en éveil, qui est toujours en circulation, ce qui fait qu'il a pu réfléchir sur toute son existence. Il a repassé son existence, toute son enfance, toute son existence auprès de son père, hein, auquel il a consacré un livre, hein, Jean. Et donc, ce marcheur qui est obstiné et attentif est émerveillé par la France, puisqu'il l'a parcouru dans tous les sens, mais il est émerveillé aussi par l'homme et par les possibilités de l'homme. Et c'est à travers donc, ce bouquin qu'il présentera et qu'il dédicacera donc, à la librairie Clair-Obscur que l'on pourra se rendre compte de l'humanisme et de l'humanité de ce philosophe, hein, parce qu'on a dit généticien, etc., mais il est aussi un grand philosophe qu'est Axel Kahn.
Ça me fait penser à je ne sais plus quel philosophe grec qui disait qu'il n'y a pas de pensée sans mouvement et qui donnait toujours ses cours voilà. Justement avec ses élèves en marchant. Puisque...
C'était les péripapéticiens.
Ben voilà. C'est ça. Donc toujours en compagnie de Jacques Trinck et Michel Dubarry qui représentent l'AGET, donc l'association Jaurès Espace Tarn. Donc pour cette journée autour d'Axel Kahn, ça se passera donc le mardi 16 octobre prochain. Ça commencera avec une rencontre dédicace à la librairie Clair-Obscur à 17h, suivie ensuite à 20h30 une conférence donc donnée par Axel Kahn autour de l'intelligence artificielle et l'humain dans tout ça.
Mais si je pouvais terminer par présenter succinctement le programme de l'AGET, Association oui. Jaurès Espace Tarn pour 2018-2019.
Tout à fait. Alors ouais. Juste avant, je pense à une autre chose. Est-ce que ces animations sont gratuites, ouvertes à tous?
Absolument.
Comment ça se passe?
Absolument. Nos conférences sont libres, entrées libres et gratuites. Quand ce n'est pas libre et gratuit, comme certaines projections de films,
oui.
Bon, c'est indiqué. Hein, mais en général, c'est entrée libre et gratuite à toutes nos manifestations.
Ok, super. Voilà. Merci à vous. Et donc, du coup, on passe maintenant au programme un petit peu de l'année à venir pour l'AGET, programme des conférences et autres
voilà,
animations.
Donc, il y a 13 rencontres entre cinéma et conférences, débats qui se partagent entre Castres et Albi. Alors, Albi, c'est à l'université Champollion. Et à Castres, c'est à l'ISIS, à l'école d'ingénieurs, dans le campus de la Borde Basse. Le 6 novembre, un sujet qui est aussi beaucoup d'actualité, la Palestine aujourd'hui. Et comme conférencier, deux conférenciers,
importants. L'un qui est photographe, Serge Nègre, qui est de la Bruyère, et qui a fait de nombreux voyages donc, en Palestine et surtout en Cisjordanie, ce qui est assez remarquable. Et Michel Warchawski, qui est un journaliste et militant pacifiste, mais qui, lui, est de l'Union des Français juifs pour la paix. Donc, c'est quelqu'un qui s'oppose au sionisme et qui nous présentera un petit peu l'état des lieux de ce territoire qui, depuis 70 ans, est voué à de nombreux remous. Et ensuite, le 20 novembre, la fonction publique, et j'arrêterai là pour la présentation... La fonction publique, une idée d'avenir par Anicet Le Pors. Anicet Le Pors a été ministre sous le gouvernement, un des gouvernements précédents, ministre de la fonction publique d'ailleurs. Ancien ministre. Mmh. Voilà, donc il vient de nous parler si la fonction publique a un avenir en France.
Oui, c'est, malheureusement, voilà. La question peut se tourner comme ça aussi. Mmh. D'accord, donc merci
et
beaucoup.
Vous retrouverez tout le programme sur le site de la JET, c'est www.ajet.fr et vous avez le programme et toutes les conférences avec le résumé des conférences, de la centaine de conférences qui ont déjà été données depuis bientôt plus de 20 ans.
Waouh, super. Voilà. Ben, bravo à vous en tout cas parce que c'est vraiment, nous on relaie très souvent les conférences de la JET sur Radio Albigès, c'est toujours des thèmes très intéressants et puis avec des invités aussi qui ont l'air passionnants. Donc on rappelle, hein, merci beaucoup à vous Jacques Trinck et Michel Dubarry, membres de l'association Jaurès Espace Tarn. Le prochain gros rendez-vous donc c'est la journée du mardi 16 octobre autour d'Axel Kahn, donc ça commence à 17h avec une rencontre dédicace à la librairie Claire Obscur à Albi et ça enchaîne ensuite le soir à 20h30 avec une conférence sur le thème de l'intelligence artificielle et l'humain dans tout ça. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et puis
merci.
À très bientôt sur les ondes de Radio Albigès.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Paul pour cet entretien, merci à Johann Strauss pour son beau Danube bleu qui accompagnait le film de Stanley Kubrick, L'Odyssée de l'espace. Retrouvez le programme des conférences de l'association Jaurès Espace Tarn sur www.ajet.fr.